Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première interview sur Artist NC. Je suis Julien et je suis accompagné de mon collègue Kevin aujourd'hui à la régie. Bonjour Kevin.
Bonjour Julien.
Et là aujourd'hui, bah, Kevin, je ne sais pas pour toi, mais aujourd'hui j'ai 10 ans.
Parce que
ça, j'ai des souvenirs plein la tête. Ça, on a la chance aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui a accompagné toute ma génération, en tout cas la jeunesse de ma génération, jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est avec grand plaisir que nous recevons Guy Raguin.
Oui.
Ah, Léo.
Ouais, il est pas loin, il est toujours avec moi.
Ah, excellent.
Salut bonjour. Julien, Kevin. Merci de me recevoir, être le premier sur artiste.nc. C'est un vrai plaisir et un honneur.
Ah ben, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est un honneur pour nous aussi. Bon. Les gens de notre génération, on me disait, vous ont connu depuis le plus jeune âge, tout d'abord avec Léo et Guy.
Oui.
Et bien d'autres émissions, notamment ensuite Maxi Music Show.
D'accord, oui. Alors, il y en avait plusieurs avant aussi, puisque j'ai commencé avec Mercredi.
Mercredi.
Oui, c'est le mercredi avec Guy, à tel point qu'un caméraman m'a fait recommencer cinq fois une phrase de lancement, parce que pour lui, j'accrochais un mot, et puis il n'avait pas compris que Mercredi, c'était fait exprès. Il pensait que je prononçais mal le mot mercredi. Bon, je lui ai quand même expliqué que c'était le titre de l'émission, mais il était tout nouveau, et puis il ne savait pas que c'était le titre de l'émission. Donc voilà, et puis effectivement, plus tard, après, il y a eu Léo et Guy, oui, et puis le Maxi Music Show, bien sûr, pour une certaine jeunesse en discothèque, et ce sont de vrais beaux souvenirs.
Ah oui, c'est effectivement, je confirme, moi de l'autre côté aussi de l'écran, c'était de grands moments. Donc ben, on profite de l'occasion de cette interview pour vous remercier pour tous ces bons souvenirs, justement.
Merci.
Et donc cela dit, je pense que c'était pas tout ceci n'était pas votre seule activité déjà à cette époque, et vous êtes d'ailleurs aujourd'hui toujours très actif dans des tas de domaines à l'heure actuelle. Donc notre première question sera donc la suivante. Quels sont vos domaines d'activité en 2019?
J'en ai plusieurs, effectivement. Comme je dis, j'ai plusieurs casquettes à l'envers. Effectivement, mon métier est toujours disque jockey. C'est ma 51e année cette année que... Le 41e, pardon. Je commence à me vieillir un peu plus, que je mixe. Et donc voilà, c'est toujours mon terrain d'activité principal, j'oserais dire. Et puis j'ai les spectacles de magie et j'ai la production et la création d'événements avec ma femme dans le domaine du burlesque, puisque voilà, cette année encore, nous avons trois festivals, festival burlesque, festival comique que j'appelle le Magic Circus et le festival international de magie.
Effectivement, ça fait un carnet.
Ouais, mais c'est que du bonheur. Que du bonheur. On apporte du bonheur aux gens. Donc, c'est un vrai plaisir, vous le savez. C'est un vrai plaisir que de faire et de pouvoir vivre ou survivre de sa passion.
Oui, bah, ça rejoint un petit peu la question que j'allais poser par la suite. Quelle est votre plus grande motivation au quotidien, ce qui vous permet de garder toujours la pêche pour faire
ça? C'est ça, c'est apporter du bonheur aux gens, arriver à les distraire ou leur donner envie de s'échapper un petit peu le temps de moment. Ça peut être le temps d'une soirée quand il s'agit d'une soirée dansante ou le temps d'un spectacle, d'une heure de spectacle, que ce soit pour des enfants ou des grands ou des adultes, c'est leur faire oublier un petit peu les soucis quotidiens. Et là, j'en parle d'autant plus que je fais beaucoup de bénévolat dans les hôpitaux aussi. Donc là encore, c'est essayer de les distraire de leurs mots MAUX du moment.
Ah, c'est super. Et justement, avec toutes ces activités que vous pratiquez au quotidien, vous devez avoir certainement des méthodes de travail bien calées pour arriver à mettre tout ça bout à bout. Est-ce que des méthodes de travail depuis justement les temps de la télé et tout ce que vous faites aujourd'hui ont évolué avec le temps, avec les activités?
Alors, j'ai pas réellement une méthode de travail. Enfin, je fais parler mon cœur. Moi, il faut que ça rigole devant moi, ou au moins que ça sourit, quoi. Même quand les gens sont en train de danser, s'ils ont la banane, je suis content. Donc, c'est effectivement leur apporter un petit moment de plénitude, de bonheur. J'ai pas réellement de méthode de travail. Je me suis fait un peu sur le tas en magie, puisque quand j'ai commencé, il y a un petit peu plus de 30 ans, j'étais tout seul, donc du coup c'est les moments présents qui me faisaient progresser dans mon domaine, quoi. Donc par exemple dans le domaine de la magie ou de la sculpture de ballon, donc là voilà, j'apprenais au fur et à mesure que je performais devant les gens.
C'est vrai qu'il y a aussi la sculpture de ballon, ça je l'ai vu le faire plusieurs fois, ça m'a toujours fasciné.
Ça prend, et puis après voilà, après j'essaie de créer mes propres les animaux, enfin, on n'en crée plus beaucoup, puisque dans le monde entier, on arrive à retrouver absolument tout. Mais voilà, moi, sculpture de ballon fait partie d'une de mes activités pour les enfants, même si je m'en amuse aussi avec les adultes parce qu'ils n'arrivent même pas à gonfler un ballon tellement c'est difficile, donc ça devient de l'animation et oui, ça fait partie d'une de mes activités.
Mais avez-vous été vous-même influencé par des artistes et si oui, lesquels ?
Alors, dans le domaine de la magie, au tout début, alors c'est assez marrant d'ailleurs, parce que, je sais pas, l'interview elle fait combien ? Elle fait 3-4 heures, je peux raconter ma vie ou bien ?
Oh, oui, on est là, tranquille,
on va essayer de condenser tout ça, mais c'est assez marrant, et puis si ça peut aider certaines personnes à avoir un peu de culot pour oser faire des choses, tant mieux. Par exemple, bon, moi je suis arrivé parce que j'avais gagné le titre de champion de France en 84, le disque jockey. Donc je suis venu, j'avais 3 semaines de spectacle ici et 3 semaines à Tahiti. Et ici on m'a demandé de rester, ou si j'étais d'accord pour rester ou pour revenir en tout cas, et monter, créer une radio qui existe toujours, qui est Énergie, et qui à l'époque s'appelait Énergie 2000. Donc j'ai dit oui, je suis venu ici pour créer la radio, quoi. Donc voilà, donc quand je suis arrivé, il y avait 2 autres métropolitains, on était 3 à la direction. Donc moi c'était plutôt l'animation et la programmation musicale. Donc comme je savais que j'allais être directeur de la radio, je me suis formé auprès d'une très grosse station à Marseille qui était même devant Énergie, qui s'appelait Radio Service, qui était vraiment un très très gros, média, et la personne m'a appris un peu les secrets de la programmation d'une chaîne, d'une radio musicale. Donc voilà, je suis arrivé avec ça, et 2 ans et demi après, je démissionne pour entrer à la télé. Alors c'est assez fou parce que ce sont des ados qui participaient à mes émissions en radio, donc qui s'appelaient par exemple Star Match ou Star Class. Donc pour être la star des classes et la classe des stars, donc c'était des collégiens qui s'inscrivaient, et voilà, et puis c'était à coup de... Chacun avait sa programmation musicale, et c'était à coup de coup de téléphone, justement, qu'on arrivait à définir quel était le collège gagnant. Bon. Et puis ces mêmes collégiens me demandaient de faire la même chose en télé. Ils m'avaient mis cette idée-là en tête, moi je trouvais ça complètement fou, et je dis, waouh, c'est un média qui me faisait rêver, et j'ai dit, mais pourquoi pas ? Et pour faire court, je suis allé voir un voyant. J'y crois pas, peu importe. Quelques années auparavant, ma mère m'amène voir un voyant en 84 qui voit un V de victoire en me disant, je ne sais pas si vous êtes en train de préparer un championnat, un concours, que sais-je, en tout cas, vous le gagnez. Bon, cette année-là, je gagne le championnat de DJ et je me dis, bon, pourquoi pas ne pas aller voir un autre voyant qui pourrait m'indiquer que peut-être je gagne le prochain concours. Bon. Et je suis allé voir un voyant qui n'arrivait pas à définir mon futur. Il savait qu'il y avait des gens autour, il n'arrivait pas à le verbaliser. À chaque fois, il s'arrêtait. Pourtant, il m'a dit des tas de trucs vrais, comme quoi j'allais avoir 2 enfants, un garçon, une fille. Enfin, c'était incroyable quand je prends un peu de recul. Mais il n'arrivait pas, voilà. Alors, il ne voyait rien dans le championnat. Et à la fin, je lui dis... Bon, écoutez, moi je suis venu pour le championnat, il regarde, il me dit, je ne vous vois pas gagner, vous finissez bien, mais je ne vous vois pas gagner. Donc c'était en 87, et en 87, je finis vice-champion de France, et le premier n'était autre que mon meilleur ami à qui j'avais tout appris le métier de DJ. Donc je veux dire, j'étais encore plus heureux que de gagner une deuxième fois. Moi, mon CV, c'était bon, ma carte de visite était remplie, j'étais vraiment heureux qu'il gagne. Et là, je lui dis, et il me demande, pardon, à la fin, il me dit, écoutez, j'arrive pas à voir votre futur, et j'arrive pas. Le gars, il était vraiment perdu. Et il me dit, quel est votre, je sais pas, votre rêve ou projet? Et là, je lui dis, bah, écoutez, ça fait plusieurs mois que des ados me parlent d'émissions de télé. Et là, le gars, même presque physiquement, je l'ai vu s'illuminer autour de lui, je sais pas, c'est une lumière, et il me dit, mais c'est ça que je vois depuis 1 heure et que je verbalise pas. Votre futur, c'est la télé. Alors, allez-y, foncez à la télé, proposez. Oh, ben, j'ai dit, ok, bon. Donc, les mois passent quand même, parce qu'il fallait que j'organise bien quelque chose dans ma tête et que je propose à la télé quelque chose de vraiment très construit. Mais quand j'y suis allé, ben, 1 heure après, il me disait, oui, on vous embauche, quoi. Et j'ai dit, merde, c'est aussi facile que ça, quoi. Et voilà. Et là-dedans, dans cette émission que j'avais... que j'ai proposé à RFO à l'époque, il y avait une sculpture de ballon et un tour de magie par émission, par mercredi après-midi. Sauf que j'étais ni sculpteur du ballon, ni magicien, quoi. Et c'est là que je dis, c'est des fois bien d'y aller au culot et puis et après de travailler, quoi. Donc là, quand il m'a dit, ben ok, on vous embauche, vous attaquez le mois prochain, là, j'ai fait croire que c'était pas possible parce que j'avais déjà pris un billet d'avion pour aller voir la famille en métropole. Et en fait, c'était complètement faux. C'est que À partir du moment où je suis sorti du bureau, j'ai pris un billet d'avion pour aller en métropole, voir un peu ma famille, mais surtout me former et en ballon et en magie. Donc j'avais une adresse de magie, je ne sais pas comment je l'avais eue, à Paris. Donc là, j'y suis allé. Le gars m'a vendu dans un premier temps des tours de magie un peu automatiques, où je n'avais pas besoin de travailler la manipulation. Et comme quoi, le hasard fait bien les choses, c'est que dans ce magasin, j'ai sympathisé avec un gars qui était un très très bon ami du patron de ce magasin de magie. Et je lui ai dit, voilà, je suis allé au culot en disant que j'allais faire un tour de magie par émission. Ça y est, maintenant je suis blindé pour l'année, mais j'ai aussi promis une sculpture de ballon, sauf que je ne sais pas à qui m'adresser. Et le gars, il me dit, est-ce que tu te fous de moi? Je dis non. Je m'appelle Pierre-Jacques. Ben, je dis, moi, je m'appelle Guiraguin. Bon, et alors? Il me dit, ben, je suis le sculpteur de ballon français. Et en fait, c'était vrai. Il n'y en avait que deux à l'époque en France. Et j'ai devant moi, à qui je posais cette question-là, c'était le sculpteur de ballon français. Donc, on a sympathisé tout de suite. Et il m'a appris à la maison, vraiment, un cours particulier. Pendant une journée, j'allais bouffer des ballons. Et donc, je suis arrivé en faisant les ballons. Donc, ça a été, depuis le début, ce sont comme ça des coups de pouce du destin, de la providence, où je rencontrais à chaque fois les bonnes personnes, et des fois je provoquais ça en y allant un peu au culot. Voilà comment ça a commencé. Donc ce sont ces gens-là qui m'ont inspiré, qui m'ont appris à faire ça, et puis après ces gens, comme les premiers magiciens que j'ai rencontrés, m'ont donné d'autres contacts, et puis après c'est allé très vite, et en ballon c'est allé très vite, parce qu'ici j'étais le seul sculpteur de ballon et magicien, et puis voilà, et puis quelques mois après je me suis découvert une prédisposition à la ventriloquie.
Ah oui, ça c'est rigolo.
Et donc du coup j'ai trouvé ça et en regardant juste un sketch à la télé et l'histoire là encore est encore belle, bon, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais ce gars qui m'a inspiré, qui s'appelle David Michel, qui avait un pingouin, Nestor, qui était la grosse vedette de l'époque, moi j'ai vu qu'assez rapidement j'arrivais à refaire la voix et à ne pas bouger les lèvres et donc à refaire son sketch en décalé. Et je me suis dit, c'est incroyable quoi. Puis c'est mon ex-compagne qui me dit, mais t'es ventriloque. Bah, je dis non, tout le monde arrive à le faire. Bah, elle me dit, moi j'arrive pas à faire la voix que t'es en train de faire et j'arrive pas à parler sans bouger les lèvres comme t'es en train de faire. Et puis quelques jours après, chaque fois que je rencontrais un copain, je lui demandais
s'il arrivait à faire ça.
Et donc le copain n'arrivait pas à faire ça, et à chaque fois les copains me disaient, mais t'es ventriloque. Ben, je lui dis, ben non, quoi. Enfin, puis au bout de 10 copains, et voilà, et j'ai dit, ben, je suis peut-être ventriloque, quoi. Et puis voilà, je me suis découvert cette passion, cette prédisposition, parce qu'il faut avoir une prédisposition. Je ne peux pas l'apprendre. Autant je peux apprendre une manipulation de magie, une sculpture de ballon, autant je ne peux pas apprendre. On m'a juste dit que, voilà, mon pharynx et larynx, c'était pas tout à fait comme les autres, et qu'ils se positionnaient d'une certaine façon pour que j'arrive à faire ça, mais voilà quoi. Donc j'ai dit merci de m'avoir donné ce petit talent ou ce don, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et quelques années après, je rencontre ce gars qui m'avait fait démarrer, et c'est une belle histoire parce que voilà, je faisais un petit sketch sur scène dans un congrès de ventriloque où très peu osaient aller sur scène devant ses pairs et ses compères et ses autres pros. Moi, j'y suis allé. Juste arrive celui qui était l'invité d'honneur et qui était en retard. C'est ce gars-là, David Michel. Il s'est assis. Moi, j'ai quitté ma marionnette en disant, voilà, merci beaucoup. Moi, j'avais larmes aux yeux. J'étais un gosse. Et je lui dis, c'est grâce à toi que j'ai commencé il y a... Donc, à l'époque, ça faisait une quinzaine d'années que je faisais ça. Et je lui dis, c'est grâce à toi, tout ça. Bon, ok, bon. Très bien. Bon. Et je fais mon sketch, mais par contre, j'étais le seul ventriloque à avoir une idée que j'avais eue ici sur notre caillou et que personne n'avait eue. Bon, je croyais que tout le monde faisait ça en métropole, qui était de télécommander ma marionnette. Alors tout le monde se moquait un peu de moi parce que j'étais le seul marionnette un peu en dur, un peu vintage, un peu old school, alors qu'ils avaient tous des marionnettes latex qui bougeait dans tous les sens, c'était très bien. Mais moi, je savais pourquoi j'avais cette marionnette-là, c'est qu'il y avait tous les cerveaux moteurs à l'intérieur qui me permettaient de la faire bouger à distance. Et quand j'ai fait mon sketch, eh ben, ce gars-là, moi, qui m'avait inspiré, forcément, puisque 15 ans avant, c'est en le regardant à la télé que je me suis découvert cette prédisposition, eh ben, ce gars-là, il était debout, à me féliciter, et on est tombé on s'est tombé les bras dans les bras l'un de l'autre. Moi, j'arrêtais pas de le remercier, lui me remerciait de ce que je venais de faire en me disant, mais j'ai jamais vu ça. Et donc ça a été un moment très fort. Donc c'est tous ces gens là qui m'ont inspiré, voilà, et ces rencontres. Merci voilà, beaucoup. Pardon d'avoir été aussi long.
Ah, mais là, parce que elle est magnifique cette histoire, elle est pleine d'enseignements et inspirante pour tout le monde aussi.
C'est ça, oui.
Et non.
Oui.
Alors, étant donné tout ce qu'on a vu là, la question suivante, c'était quelles sont vos plus grandes fiertés depuis, par rapport à tout ce que vous
alors,
avez fait.
Fier d'avoir fait ce parcours à la télé, parce que j'avais commencé en me disant, bon, ça durera pas de temps, mais j'ai toujours positivé, c'est-à-dire que même si l'aventure ne devait durer que quelques mois, j'aurais apprécié pleinement cette aventure-là, et elle a duré presque 30 ans, donc c'est quand même pas mal. Donc, fier d'avoir amusé ces deux générations, donc la tienne et puis celle même, pas d'avant, mais je veux dire que la fierté de... Au fil des années, surtout vers la fin, de voir des gens qui avaient 30 ans et plus de 30 ans qui me demandaient de faire participer leur enfant parce qu'eux avaient participé quand ils avaient 6-8 ans. Et ils avaient des enfants de 6-8 ans. Et donc là, je me suis dit, waouh, effectivement, je me prends une grande claque dans la figure, mais c'est une belle claque, quoi. Pleine de souvenirs, pleine de sourires pour ces gens-là. Et je crée aussi des souvenirs pour leurs enfants, quoi. Donc, des souvenirs en commun. Donc, ça, c'est ma fierté. Les autres fiertés, c'est d'avoir gagné ce championnat de DJ en 84 qui m'a fait connaître sur le territoire et qui m'a permis, moi, de connaître le Caillou. Donc, cette fierté-là, la fierté de faire vice-champion 87, mais surtout la fierté de regagner le championnat de France 14 ans après. Et personne ne l'avait fait. Puis je suis le seul à avoir fait le double titre de champion de France. Donc ça a été énorme. Ça a été une vraie fierté parce que tous les gens qui m'ont vu arriver en 98 pensent qui avaient entendu parler qu'un Guiraguen faisait le championnat, étaient persuadés que c'était un Guiraguen junior, que c'était mon fils et pas moi. Et là, quand ces gens-là, contre qui moi je faisais les championnats 14 ans avant, j'ai participé, j'ai fait les sélections dans leur discothèque parce que ces gens-là n'étaient plus DJ, mais étaient patrons de boîte. Et j'en ai rencontré combien comme ça qui me disaient « Mais on a fait le championnat il y a 14-15 ans, l'un contre l'autre, quoi. » Et ça leur faisait... ça les faisait... ils étaient complètement hallucinés de dire « Mince, t'es toujours là, toujours derrière les platines ?» Ben, j'ai dit oui. Donc, c'est vrai qu'ils étaient... Ils étaient sur les fesses, quoi, de me dire, merde, 14 ans après, c'est encore toi, je croyais que c'était ton fils. Donc, d'avoir gagné ce championnat de France 14 ans après, ça, c'est une fierté aussi. Bon, j'ai travaillé pour. Et puis la même chose sur le territoire, puisque j'avais gagné le premier championnat de Calédonie en 98, et je l'ai regagné 14 ans après. Donc, ça, c'est une certaine fierté de continuer comme ça à être passionné et avoir le même feu derrière les platines ou sur scène pour des spectacles, c'est une certaine fierté, oui. Cette longévité est une certaine fierté pour moi. Et puis après, bon, la plus grosse des fiertés, c'est tout ce que je peux faire en bénévolat auprès des hôpitaux, des enfants malades, démunis, défavorisés, handicapés. Enfin voilà, je me suis donné cette vraie mission il y a plus de 30 ans et je continue avec beaucoup de plaisir et je suis toujours présent quand n'importe quelle association me demande, du moins que ça touche les enfants ou les personnes âgées, et ou les personnes âgées, je le fais vraiment avec le cœur, comme je pense que tout le monde devrait le faire dans sa partie à lui, quoi. On devrait tous faire un petit peu de bénévolat. Il faudrait presque que le bénévolat devienne obligatoire, j'oserais dire.
Oui. C'est quelque chose effectivement à méditer, parce qu'il y, a, il y en aurait effectivement bien besoin. Et quelle est votre expérience la plus insolite ?
La plus insolite ? Waouh !
C'est vrai qu'il y a, eu pas mal de choses qui ont dû se passer.
Hein. Oui. Wow. Plein de choses. Voilà, pareil, si on part dans des souvenirs comme ça. Par exemple, la première fois où j'ai tourné à l'extérieur, où j'étais considéré comme un vrai magicien à l'extérieur, alors qu'ici j'ai toujours été le clown qui amuse les gosses, quoi. Même si je fais des tas de spectacles pour les adultes, j'ai toujours cette image-là, je ne suis pas réellement le magicien. Et la première fois où j'ai été vraiment considéré comme un magicien, c'est la fois où la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Alliance française de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, m'avait demandé de venir performer en Papouasie. Et là, je me suis dit, waouh, on me demande à l'extérieur, Bon, j'en étais très fier. Et quand je suis arrivé là-bas, ça a été complètement fou parce que le gars ne me connaissait pas. Mais pour faire mousser un petit peu les spectacles qu'il avait vendus au nom de l'Alliance française, j'avais des affiches sur moi en disant l'un des meilleurs magiciens de France sur le territoire. Et moi, j'ai dit, mais tu étais malade de marquer ça. Tu ne m'as même pas vu. Tant je suis une vraie brêle à tes yeux et tu m'annonces comme le meilleur magicien de France. Oh, il me dit, t'inquiète pas, de toute façon, ici, il n'y a jamais de magicien qui vienne. Donc, de toute façon, tu seras très bon puisqu'ils en ont jamais vu, quoi, bon, ou très peu. Et là, je dis waouh. Et là, ça a été dingue parce que le gars, il me demande si je crée un hélicoptère. Moi, j'avais jamais fait d'hélicoptère de ma vie. Et il m'a dit, on va te faire arriver un hélicoptère. Je dis, ah bon, bon. Je dis, ok. Et là, j'arrive en hélicoptère. Et puis, il me dit, puis quand tu descends en hélicoptère, tu cours vers nous. Et donc, c'était un lycée à l'époque là-bas, dont je me souviens très bien, avec une énorme arène. En 2001, et moi j'étais au milieu de cette arène-là, là, une espèce de gladiateur de la magie, et il me fait arriver en hélicoptère. Je cours vers tous ces jeunes-là qui étaient droits comme des lits, et moi j'avais le bruit de l'hélicoptère, et quand j'arrive, au fur et à mesure, j'entendais la Marseillaise, et j'arrive, et je vois tous les gens, donc en fait, au garde à vous sur la Marseillaise, et là j'ai dit, on doit attendre sûrement un président quelconque, quoi. Et ben non, il m'attendait moi. Sur la Marseillaise, et là je dis, bah attends, j'hallucine quoi. Et au gars, je dis, attends, me dis pas que tu vas faire arriver un hélicoptère, qu'il y a une Marseillaise sur moi, juste pour que. Il me dit, ben oui, t'es quand même. Je suis quand même rien, je suis quand même rien du tout. Je suis quand même juste un petit magicien en Calédonie. Effectivement, je suis le seul dans le Pacifique à l'époque, mais je dis, mais je suis rien du tout. Et là, tu me mets comme un président de la République quoi. Bon, voilà. Donc, heureusement, mes tours ont fait rire et ça a marché. Mais voilà, ça a été complètement dingue. De me faire arriver en hélicoptère sur la Marseillaise, voilà, avec des gens au garde à vous. Donc, ça c'était une drôle d'expérience, enfin, bon, c'était assez hallucinant. Et puis, bon, comme ça, j'en ai plein. J'ai fait un spectacle une fois à New York. Donc, là, pareil, c'était mon premier contrat à New York. Et le gars, à la fin, il me tend des sous. Donc un peu discrètement, moi je refuse complètement en disant non, mais déjà vous m'avez pris là et je trouve ça mais énorme de tourner à New York à une heure de Broadway, donc c'était à Coney Island, là où il y a un fameux parc d'attractions que l'on voit dans tous les vieux films américains, new-yorkais en tout cas, et là je lui dis non, mais moi je veux pas cet argent-là, non, il me dit comme tous les magiciens, on était 5 ce jour-là, moi j'étais en plus parce qu'on s'était rencontrés, parce que j'avais regardé ce spectacle-là le dimanche d'avant, je me présente auprès de ce producteur, bon bref, et puis il me dit est-ce que tu as des tours, je dis oui, j'ai des tours avec moi, parce que j'ai toujours une valise pour faire des spectacles un peu bénévoles à droite et à gauche, pour échanger, pour rentrer dans des familles, ou rentrer, enfin, je sais pas, j'adore voyager avec une valise de magie, et il me dit ben, dimanche prochain tu es sur scène pour faire un petit quart d'heure, 20 minutes, au même titre que les 4 autres là, waouh, et là quand il me tend, bon je le remercie, je mets les sous dans la poche, et puis quand après j'avais une heure de train pour rejoindre Broadway, et là je regarde, j'avais $50 quoi, bon 5000 balles CFP, mais pour moi j'avais l'impression d'avoir gagné 3 millions, j'étais aussi content que si j'avais gagné, parce que c'était ma première paye new-yorkaise, ma première paye américaine, donc ça c'était un beau souvenir, et ce même souvenir quand le gars me dit, bon c'était génial, on voit même en anglais, pour ça Dieu sait que je parle pas beaucoup anglais, mais bon, mon spectacle j'arrive à le faire en anglais, il me dit bravo pour ça, il me dit mais par contre fais attention, parce que si tu as retourné aux États-Unis, il y a des choses qui me fait no way, tout ce qui est en dessous de la ceinture, voilà. Et moi, j'avais deux trucs rigolos où tous les gens rigolaient. Et effectivement, à un moment donné, je prenais mon slip, on sortait mon slip, quoi. Et là, il fallait surtout pas le faire. Et pareil, il me dit, il faut surtout pas toucher la tête des enfants. Et moi, je prends un bon sens. Et à un moment donné, c'est du mime, c'est-à-dire c'est moi qui bouge. Je fais comme si je touchais la tête des enfants, mais la tête, oui, je la touche physiquement, j'ai mes mains dessus, mais elle ne bouge pas. Et par un subterfuge, j'arrive à la faire craquer. Donc il y a un gros bruit. Et là, lui, il faisait des bonds, mais des bonds en coulisses, pensant que j'étais en train de casser la tête des enfants. Il se voyait déjà avec des procès aux fesses et des avocats contre moi, alors que c'était juste du mime et c'était un tour de magie, quoi. Et là, il m'a dit, quoi qu'il en soit, et je voyais bien, même les parents de cet enfant étaient morts de rire, quoi. Et je lui dis, mais tout le monde rigolait. Il m'a dit, oui, je sais. Il m'a dit, je pense qu'il rigolait pour trois choses. D'abord, parce que tu étais habillé tout en fluo, un clown, quoi, que t'es français, et donc ça, bah, ok, ça fait y a des choses qui passent plus facilement et que tu arrives d'un pays que personne ne connaît. Voilà, donc il a commencé à me présenter avec la planisphère en disant, voilà, il arrive de ce côté-là du globe. Donc il me dit, pour ces trois raisons-là, oui, c'est passé. Mais attention, la prochaine fois, ne fais pas ça. Et je suis retourné là-bas pour performer 2 ans après. Voilà, j'ai pas touché la tête des enfants, j'ai pas sorti mon slip, et donc là, il était encore plus heureux, et là, il m'a glissé encore les sous, et là, quand j'ai regardé, il y avait plus que 25 dollars, parce qu'il y avait très peu de personnes. Il tourne tous les dimanches pour les familles, et voilà, c'est plus pour se faire plaisir, Donc voilà, donc il y a des moments comme ça, assez croustillants, qui me resteront en tête. D'autres moments, mon premier titre de champion de France, où là, c'était, j'ai beaucoup bossé pour ça. Et voilà, donc ça reste très fort, parce que grâce à ça, en a découlé ma vie après. Et d'autres moments très forts, c'est quand j'ai reçu, contre toute attente, parce que moi, je ne l'ai jamais fait pour ça, j'ai reçu la médaille d'or de la Ligue nationale contre le cancer, et pour toutes les actions que j'avais faites pour eux. Et là, j'en ai pleuré parce que cette responsable-là de la Ligue contre le cancer me demandait de venir au cocktail. Et moi, j'aime pas ça. Je le fais avec le cœur. Je le fais pas ni pour être marqué que je suis bénévole quelque part. Souvent, quand tous les Noëls, je suis à l'hôpital pour amuser les enfants et je serai tous les Noëls là-bas. Mais quand il y a les nouvelles ou d'autres médias qui me disent « Ah, on va marquer que vous êtes bénévole », je dis non. Ou alors marquer que tous les autres sont bénévoles et que je suis avec les mamans roses qui sont des bénévoles ou les blouses roses, ou que je suis avec telle association où ils sont tous bénévoles, ou que les autres artistes sont bénévoles. Ne marquez pas ça, je m'en fous. Marquez qu'on était là, mais... On n'a pas à savoir qu'on est des bénévoles, on le fait avec le cœur, on ne le fait pas pour la reconnaissance, c'est idiot, quoi. Et donc, du coup, fort de ça, quand la dame de la Ligue contre le cancer me dit « Est-ce que tu pourrais venir donc à ce cocktail-là » Je dis « Tu sais très bien que ce n'est pas mon truc, là, j'ai pas envie, non. » Il me dit « Non, mais c'est important, il y aura le haussaire, il y aura le maire. » Moi, je dis « Non, c'est pas non. » Et puis, elle insistait tellement, elle me dit « Écoute, fais-le pour moi, je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'est vraiment important. » Et j'ai compris vite pourquoi, parce que j'ai reçu cette distinction que eux ne peuvent pas donner. Il faut qu'ils expliquent toutes mes actions à Paris. Et c'est eux qui donnent, qui se disent « Bon, ok, ce gars-là est méritant. » Donc, quand j'ai su tout ce cheminement, bah, voilà, moi, j'en ai chialé quand j'ai remercié les gens, j'en ai pleuré en me disant « Voilà, je ne fais pas ça pour ça. » Bon, voilà. Donc, ça, c'est des petits souvenirs qui me sont chers, vraiment, et qui me remplissent le cœur. Et Dieu sait que je le fais surtout pas pour des médailles, je m'en fous, mais voilà, ces récompenses-là, je trouve ça assez fou. Donc, je suis fier un petit peu de tout ça, et voilà, et ma vie est jalonnée comme ça de belles pierres qui scintillent, quoi. Mais,
C'est vrai que tous ces événements-là, ça fait quand même une expérience de vie plutôt énorme et magnifique.
Oui, oui, riche.
Ah oui, très riche.
Oui.
Justement, on va remonter encore un petit peu plus loin,
oui,
pour voir ensemble le plus grand souvenir de votre enfance.
De mon enfance. Alors, moi, j'ai baigné dans le judo. J'étais prof de judo et voilà, ça a été ma vie, ça. Et voilà, mon enfance pour moi est égale au judo, parce que mon père était l'un des responsables du club. Je pense qu'il a voulu que j'aie des titres que lui n'avait jamais eu. Donc, je faisais des entraînements quasiment tous les jours, et dans mon club, et dans des clubs voisins, où il m'emmenait. Et lui, c'était d'abord le judo, et après, on verra pour les devoirs. Donc, ça avait pour but de faire les devoirs jusque très, très tard. Et voilà. Mais pour but, voilà, d'avoir décroché quelques petits titres, alors pas nationaux. J'ai été dans des championnats de France de judo, mais bon, j'ai jamais brillé. Mais par contre, au niveau académique et grande région PACA, là, j'avais des résultats à l'époque, quand j'étais en minime junior. Et ça, c'était la fierté de mon père et de toute la famille, parce que on était rentrés en religion pour le judo, j'oserais dire. C'est que, voilà, comme les familles vont à la messe le dimanche, ben nous, on allait tous en compétition, voilà. Et j'avais toute ma famille derrière moi. Mon frère en faisait, il a arrêté après. Ma sœur en faisait, arrêté après. Ma mère en avait fait un tout petit peu, avait arrêté. Donc, j'étais le seul et tous les espoirs de la famille reposaient sur moi, quoi. Bon, donc, ça a été des moments, des fois, très durs, parce que même des fois blessé, mon père, il me strappait avec des bandes élastoplastes, et en disant... ok, tu serres les dents et tu continues à les combattre. Donc, toutes ces expériences-là qui, de temps en temps, étaient un peu lourdes, parce que quand les copains allaient à droite, à gauche, s'amuser et tout, moi, j'étais avec le judo. Mais ça a été des... Là encore, je dis merci à tout le monde parce que j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais bu une seule goutte d'alcool, je n'ai même pas le goût d'une bière ou du vin, grâce aussi à tout ça. C'est que aux yeux de mes copains, de mes adolescents, mes copains adolescents, j'avais pas besoin de boire un coup ou de fumer pour être leur égal. Je veux dire, j'avais des résultats en judo, pour eux j'étais le sportif qui avait un peu réussi au niveau régional, et donc voilà, j'étais remarquable et remarqué à leurs yeux, et donc voilà, j'avais pas besoin d'autres artifices de cigarettes et d'alcool pour briller à leurs yeux, et donc je leur dis merci de ne pas avoir insisté, et merci au judo de m'avoir apporté ces valeurs-là, le valeur du respect, le respect de l'autre, de la patience, parce que effectivement, souvent on me dit, mais t'as une patience incroyable. Ben, je pense que c'est le judo qui m'a amené tout ça. Et voilà, donc pour moi, l'enfance, c'est le judo, voilà, avec tout ce que ça m'a apporté de bien. Et puis après, à l'adolescence, c'était assez marrant parce que bon, j'ai travaillé très tôt. À l'âge de 18 ans, j'étais déjà dans la laborantaine en application polyoléphine et polyuréthane, donc dans une grosse usine de chimie. Et puis, la vie a fait qu'ils m'ont gardé qu'un an. Je n'avais pas fait l'armée, donc ils m'ont viré après. Et je me suis retrouvé un an au chômage, alors que j'avais fait une semaine de terminale. Et c'est la vie qui m'a fait dire, prends plutôt la voie de la vie active sur les conseils de mon père. Alors que moi, j'avais fait une bonne première et je voulais continuer en terminale pour après faire kiné sportif. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et puis, voilà, les hasards de la vie, les conseils du père et de ci et de ça, ont fait que je suis parti plutôt dans ce laboratoire, ce gros laboratoire de chimie. Et un an après, ils avaient dit qu'ils me prendraient à vie, là. Au bout d'un an, le gars que je remplaçais, qui était parti à l'armée, il est revenu. Et c'est moi qui me suis fait virer. Enfin, en tout cas, le contrat n'a pas été re-signé. Puis je leur dis merci beaucoup aujourd'hui. Mais là encore, pendant un an, j'ai fait... Donc là, j'avais 18 ans et tout de suite, je continue à me passionner par le judo et je me passionnais par deux choses et par le DJing, parce que j'avais rencontré une copine qui m'a fait rencontrer des copains à eux qui montaient une discothèque dans un garage. Et là, moi qui n'étais jamais sorti en discothèque, rien, et là j'ai dit waouh, c'est ça que je veux faire quoi. Je voyais le DJ en train de faire lever les mains les gars sur la piste en disant mais ce gars-là c'est le dieu quoi, c'est le dieu de la soirée. Et là je dis waouh, j'hallucine. Et donc quand je suis redescendu, j'avais une heure de route, ma copine habitait à une heure de la maison. Quand je suis redescendu, je me suis arrêté dans un magasin et j'ai acheté tout le matériel pour transformer mon studio en discothèque. Donc j'avais des jeux de lumière partout dans mon studio, j'ai acheté la table de mixage et les platines et tous les disques, tous les hit parades du moment, et j'ai commencé à faire ça. Et parallèlement à ça, j'avais une autre passion furieuse, c'était la pâtisserie. Et je faisais des gâteaux toute la journée. Donc les copains, pour eux, j'étais le super plan, quoi, le super spot. Ils venaient, ils repartaient avec des cassettes, parce qu'à l'époque, on était à l'époque des cassettes mixées avec tous les hits d'aujourd'hui, de ce moment-là, et avec des gâteaux. Parce que moi, je les faisais, mais je suis très gourmand, je pouvais en manger, mais je ne pouvais pas tout manger. Donc ils repartaient avec tout ça. Donc voilà, donc j'avais ces trois passions. Et j'ai failli rentrer comme apprenti en pâtisserie, parce que j'ai un oncle en Bretagne qui est plus de ce monde maintenant, mais qui avait une très grosse pâtisserie, chocolaterie, confiserie. Et j'avais ma mère et ma grand-mère qui disaient « Oui, tonton, faut que tu prennes le petit, parce que toute la journée, il fait de la pâtisserie, mais il est doué, il faut que tu le prennes. » Et le tonton, il a dit « Pourquoi pas, oui, qu'il vienne en apprenti. » Et moi, à l'époque, j'avais un accent encore plus prononcé qu'aujourd'hui. Et je disais « Tonton, voilà, il y a un truc, je suis passionné, mais le dimanche matin, t'es gentil, mais moi, c'est les compétitions de judo. » Il m'a dit « Alors, avec son accent lui, reste à Marseille parce que la pâtisserie n'est pas faite pour toi, parce que le dimanche, on est au boulot à partir de 3h du matin. » Ah merde, donc j'ai pas fait la pâtisserie à cause de ça, ou grâce à ça, peu importe. Et j'ai continué le judo, j'ai donné des cours en métropole ou ici, ça m'a jamais fait vivre du tout, mais ça m'a toujours passionné. Maintenant, je suis bénévole de la Ligue de la Ligue de judo et dès qu'il faut animer au pied des... Donc voilà, j'ai eu la chance de faire les Océaniens et d'être le speaker officiel. Et alors ils me remercient, mais c'est moi qui les remercie. Eux, ils me remercient pour mon bénévolat et moi, je les remercie de me mettre au pied des tatamis et de vivre un peu par procuration les combats que je voyais devant ou que j'ai eu la chance pour NC 2011 de commenter puisque j'étais un représentant technique NC 2011. J'étais le référent technique du judo pour la télé, donc je me suis régalé. Mais voilà, mon enfance a été le judo, mon adolescence, judo, DJ et pâtisserie. Voilà.
Ça fait encore pas mal d'expériences en plus. Pâtisserie aussi.
Oui, oui. Alors du coup, depuis, j'ai arrêté, mais je continue à manger des gâteaux et me régaler. Voilà, je suis très gourmand, mais j'ai un peu arrêté la pâtisserie d'enfer, malheureusement. Ouais.
Avez-vous eu peur à certains moments de tenter de nouvelles expériences artistiques, justement ?
Non. Non, parce que quand j'ai eu envie de faire quelque chose, je me suis donné les moyens de le faire, c'est-à-dire les moyens de m'entraîner et donc d'arriver au mieux à mes fins. Donc non, j'ai jamais eu peur d'attaquer des nouvelles expériences ou de me lancer dans certaines choses. Non, peur de quoi ? Peur de ne pas y arriver ? Il ne faut pas vivre avec des regrets, il faut vivre à fond le moment où ce que l'on a dans la tête. Et puis après, bah écoute, ça marche pas, ça fait une expérience nouvelle, et puis ça me permet d'être devant vous et de raconter ces choses-là. Dont certaines, comme la pâtisserie, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Le judo, oui, quelque part, mais je ne suis plus sur les tatamis. Bon, voilà, mais je regrette absolument rien. Non, 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 non.
Quel a été votre moment le plus embarrassant sur scène ?
Alors, sur scène, moi, j'ai un souvenir. Alors, je ne parle pas des choses qui peuvent rater, parce que l'expérience fait que je me suis toujours rattrapé. Toujours. Je me raccrochais aux branches, comme on dit. Mais par contre, j'ai eu un truc là que ça restera à jamais gravé dans ma mémoire et pas de la belle façon parce que je me suis manqué sur une chose et ça me reste et j'en parle maintenant encore avec un peu d'émotion. C'est j'ai fait beaucoup, bon j'en fais encore et des spectacles à Noël pour les comités d'entreprise, mais il y a ça remonte à presque plus de 20 ans et je me souviens exactement pour quelle société. C'était pour l'ERPA. J'avais une copine qui était une des responsables de l'ERPA, ou en tout cas du CE, et m'avait demandé de faire le spectacle de Noël. Et il s'avère que c'était, dans le calendrier, le premier spectacle de ce mois de décembre-là. Bon. Et je dis ça parce que ça a un effet particulier. Et parce que quand je suis en plein dans cette période de Noël, je regarde à l'époque, bon maintenant on est dans tous les smartphones avec les calendriers sur les smartphones, mais à l'époque donc j'avais un calendrier papier et donc je savais précisément le lendemain où j'étais, à quelle heure, je me préparais, je renvoyais un coup de fil pour être sûr que voilà. Donc, mais là c'était le premier quoi. Et je me suis complètement planté parce qu'ils avaient leur spectacle de Noël, donc cette société l'ERPA avait un spectacle de Noël au terrain des banques, comme on disait, c'était à Ploum. Et moi, la veille, je suis en discothèque ou en soirée dansante, peu importe. En tout cas, je me couche tard. Je me lève le matin, moi, je dors toujours très peu, mais en fin de matinée, en mode cool. Et puis le repas se passe et tout. Moi, dans ma tête, j'étais off ce jour-là. Et à 14h, ou que sais-je, je ne me souviens plus quelle heure, m'appelle la copine. En me disant, Guy, ça va, t'as pas de problème ? T'as eu un problème ? Qu'est-ce que t'as ? Ben, je dis, écoute, rien, je suis en mode tranquille, là, je suis en famille, on va peut-être regarder la télé, tout va bien, je te remercie, Pascal, de m'appeler. Et elle me dit, non, mais c'est parce qu'on t'attend pour le spectacle, quoi. Et là, ben, j'ai jamais été mal comme ça, jamais. Et là, je dis, non, c'est la semaine prochaine, quoi. Comme si les 300 personnes qui étaient là-bas, ou 200, ou je ne sais pas combien, ou 100, ou je ne sais pas combien, avaient tous pu se tromper, quoi. Et sauf moi. Et là, je dis, non, mais vous êtes trompés tous, là, quoi. C'est la semaine prochaine. Il me dit, tu crois qu'on s'est trompé sur notre spectacle de Noël, avec le Père Noël, qui est déjà arrivé, parce qu'on t'attend depuis tout à l'heure, et que, pour faire patienter les enfants, on a fait la distribution des cadeaux avant le spectacle et tout. Et là, voilà. Je ne peux pas décrire cette sensation qui était un malaise, mais terrible, comme j'ai jamais eu d'autres malaises comme ça, en me disant j'arrive. Sauf que quand on arrive et je suis en slip, ça veut dire qu'il faut un, au minimum, que je me rase et que je me prépare et que je m'habille. Deux, que je remplisse le camion de ma sono, de mon décor et de tous les tours de magie. Camion qui est prêt et plein quand je suis en plein spectacle de magie au mois de décembre, où là, dans le fourgon, je suis prêt avec tous mes tours. Sauf que là, c'était le premier. Donc, il a fallu que je prépare tout ça. J'ai roulé comme on ne devrait jamais rouler. D'ailleurs, c'est complètement inconscient. J'ai fait un Nouméa Plume. J'ai battu tous les records de rallye. Enfin bon. Et je suis arrivé à Plume. Et là encore, j'étais dans un autre monde. C'est-à-dire, j'étais tellement en mode « je veux me préparer au plus vite » que je commence à mettre des corps. Je vois, je sens et j'entends quelqu'un à côté de moi qui me dit « Monsieur Raguel, je dis, écoutez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » D'un air comme il m'avait jamais entendu parler, quoi. Parce que je suis gentil, je suis pas quelqu'un qui gueule, ni même qui a une voix comme ça. Et là, je dis « S'il vous plaît, c'est pas le moment. » Et là, bon, je mets vite le décor en place, tout. Monsieur Raguel, c'est pas le moment. Je fais ça. Pour te dire, j'étais dans un autre monde. Parce que une fois que j'avais décor, sono et les tours préparés, je me retourne, il n'y avait personne. Et il me dit, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis une demi-heure, c'est que tout le monde est parti, quoi. La fête est finie. Et là, j'ai dit, waouh, quoi. Et là, j'étais en discothèque, je me souviens pourquoi, parce que j'ai eu 3 ans à une discothèque en centre-ville, et je me souviens précisément, voilà, que j'étais là bien. Parce que j'ai appelé la copine, où j'étais impardonnable, et je voulais me donner aucune excuse, je n'avais pas d'excuse, et je lui ai proposé le dimanche de la semaine suivante d'ouvrir la discothèque pour eux, en mode, non pas discothèque, mais petite salle de spectacle, en offrant toutes les boissons, en offrant à qui voulait bien venir. Donc j'avais prévu des boissons, des amuse-gueules, ou un petit goûter pour les enfants et les parents. Mon spectacle, bien évidemment, était gratuit et j'avais offert, comme je le pouvais, d'autres cadeaux en plus. Et ça n'a... Bon, ok, il y en a qui sont venus quand même, mais certainement pas tout le CE et tous les enfants. Donc du coup, aux yeux de la direction et aux yeux des employés, j'avais rien rattrapé, à part aux yeux de ces quelques personnes-là qui étaient venues. Mais voilà. Et du coup, c'est incroyable parce que j'ai jamais retravaillé avec l'ERPA. C'est-à-dire qu'ils ont dû rester sur ce truc-là en disant « je suis pas fiable ». Et j'ai dû faire je sais pas combien de dizaines, bon, j'exagère à peine, c'est mon côté marseillais qui revient, mais en tout cas des milliers, des milliers, des milliers de spectacles, sans me manquer une seule fois, quoi. Et ça a été la seule fois. Donc voilà mon plus mauvais souvenir, quoi. Sur scène, oui.
Ça peut toujours arriver. D'après,
ouais.
C'est riche d'enseignements aussi, ce genre d'instant-là.
Oui.
Sous un œil d'enfant, magie rime souvent avec pouvoir magique. Donc, quel super pouvoir auriez-vous aimé avoir ?
Moi, j'ai déjà ce super pouvoir de donner le sourire aux gens qui ne l'ont pas à ce moment-là. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un super pouvoir, quoi. De pouvoir comme ça amuser les gens et, comme je disais tout à l'heure, leur faire oublier un peu les soucis quotidiens, les mots MAUX et autres. Je trouve que ça, c'est un super pouvoir. Voilà. Après, bon, beaucoup de gens caldoniens sont au courant, mais et comme beaucoup d'entre eux ont vécu ça, mais voilà, j'ai vécu la maladie de ma fille et le décès de ma fille à l'âge de 20 ans. Donc, j'ai vécu ces moments très, très forts avec elle pour essayer de continuer à lui donner le sourire. Et donc, voilà, ça a été mon plus beau défi, c'était de faire sourire ma fille malgré le cancer qu'elle avait et jusqu'au bout, puisque c'est au bout du bout, c'est moi qui lui ai appris que c'était fini, parce que ni le médecin arrive à lui dire, ni les soins palliatifs. Donc voilà, de me donner cette force-là. Donc d'avoir vécu ces choses-là, c'est très très fort d'être passé par là. Si j'avais voulu avoir à l'époque un super pouvoir, c'était forcément de guérir ma fille, quoi. Et là, j'ai pas trouvé la bonne baguette magique pour. Et pourtant, Dieu sait qu'on y a cru jusqu'au bout. Et malheureusement, la fin est ce qu'elle était, est ce qu'elle est, voilà, aujourd'hui. Mais voilà, si j'avais eu une baguette magique, c'était de pouvoir faire sourire les malades, mais de pouvoir les guérir, Voilà, définitivement, j'ose le dire, pas juste pendant une heure. Parce que c'est vrai que quand je suis au Midi-Pôle, par exemple, et que je fais un spectacle d'une heure, je sais que pendant une heure, ils sont guéris, quoi. Et ils sont plus malades, les gens. Voilà, si j'avais eu un pouvoir magique, c'était de à la fois de continuer ce moment-là et de le perdurer et qu'il devienne définitif, c'est-à-dire de guérir les gens, voilà. Un super pouvoir, ouais, que je puisse guérir les gens d'un coup de baguette magique. Je ne l'ai pas encore trouvé, cette baguette magique. Bon, peut-être qu'un jour, quelqu'un la trouvera et quelqu'un pourra arriver à guérir, ben, que ce soit le cancer ou toutes ces maladies qui font disparaître trop tôt les adultes en règle générale, enfin, le monde, ben, les humains, mais surtout les enfants, parce que c'est pas normal que des enfants partent avant les parents, quoi, voilà.
Quel serait le projet artistique de vos rêves?
Alors, à la fois, je suis en train de le vivre, parce que quand on parlait de nouvelles expériences avec ma femme qui a lancé il y a 6 ans le burlesque à Nouméa, donc l'art de s'effeuiller, et qui est un véritable, qui est une véritable leçon de vie, j'oserais dire, et surtout quelques belles perspectives pour des femmes, alors hommes aussi, mais c'est vrai que c'est plutôt féminin, et ces femmes qui sont ou en surpoids, ou ne sont pas, on n'est jamais satisfait tout à fait de son corps, pour certaines d'entre elles, elles ne s'assument pas comme ça, et le fait de faire du burlesque leur a appris à s'apprécier comme elles étaient, parce que c'est ça l'art du burlesque. Et je parle de ça parce que là, je fais une surprise à ma femme. Alors, elle est au courant que je vais faire quelque chose dans le prochain festival, là, donc, qui est dans moins d'une vingtaine de jours maintenant. Elle sait que je vais lui faire une surprise, puisque je me lance dans un numéro solo de burlesque, donc dans de l'effeuillage, et je vais me retrouver vraiment en petite tenue devant les gens. Voilà, je l'ai mise au courant juste parce qu'il fallait qu'on voit dans le conducteur où me situer, parce que donc il y a une mise en place, il y a tout ça. Mais voilà, donc je me lance là-dedans. Quand on disait tout à l'heure d'oser faire des choses, eh ben, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. On est toujours en train de se faire des surprises et d'essayer de se surprendre, ma femme et moi. Donc là, c'est de dire, ben, je vais faire mon solo. Et donc là, je serai sur scène en tant que solo en boylesque, là. Bon, c'est assez fou. Mais bon, j'ai des idées très sympas qui vont mêler la magie et le comique. Donc, je reste dans mon univers. Et mon rêve serait, mais honnêtement, j'y crois dur comme fer, parce qu'on commence à voir des tas de connexions avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, parce que ma femme a performé avec sa troupe 2 fois à Las Vegas. Là, on a une autre troupe d'hommes que ma femme a formé et qui sont qualifiés là, pour un festival au Texas, là, au début mai. En même temps, là, les autres sont maintenant, il y a notre Miss Burlesque et notre Mister Burlesque, dont l'élection aura lieu dans 15 jours, qui ont été retenus pour aller performer en Nouvelle-Zélande. Donc les connexions, on commence à les avoir. C'est notre 6e festival burlesque, donc on connaît beaucoup de monde. On a souvent fait venir les meilleurs mondiaux, qui eux-mêmes en parlent à d'autres. Donc on est connus à travers le monde dans ce domaine-là. Et moi, mon rêve, c'est de partager le soir même, parce qu'on n'est pas en duo, peut-être un jour on le saura, on a peut-être quelques idées, mais en tout cas, de partager la scène avec ma femme à l'international et de performer l'année prochaine, pourquoi pas en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, moi en solo boylesque et elle en solo de performeuse burlesque, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon rêve, mais honnêtement, avec un peu de prétention, mais je suis assez sûr de mon coup. Avec les connexions qu'on a, le numéro que j'ai, là c'est un peu prétentieux, mais je ne l'ai jamais vu ailleurs. Enfin, ce type de mêler un peu tout ce que je sais faire sur scène et de le mettre au service du burlesque, pour l'instant je ne l'ai jamais vu. Les gens ont un talent incroyable, les hommes, mais d'autres talents. Voilà, donc je pense qu'un jour on sera sur scène, elle et moi. Voilà, c'est mon... j'ai envie de faire ça. Puis après, j'ai d'autres rêves... Alors, des rêves, parce qu'on me pousse vers ce rêve-là, donc ce serait de monter peut-être une école, ou sous forme de stage dans un premier temps, et après d'école, pourquoi pas, une école de magie, parce que j'ai plein de jeunes de 8, 10, 12 ans qui, par Internet, sont fous de ça, et donc, me demandent ça sans cesse. D'autres, dans un autre domaine qui est le DJing, moi, j'avais une école de DJ en métropole, donc on me demande aussi ça. Voilà, bon, pourquoi pas aller vers ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ma vie commence, hein, j'ai 60 ans à peine, là, bon, donc... Il y a encore plein de projets et de rêves en tête, ça c'est sûr. C'est important.
Voilà le super état d'esprit.
Oui, c'est important.
On attend que ça, de voir ce que ça va donner justement tous ces projets dans les années à venir. Alors là, on part sur une question beaucoup plus large en fait. Très rapide. Pourquoi l'art ?
Ah, ben, je suis tombé dedans un peu au hasard. Hein. Alors quoique, DJ aussi un art quelque part. Un art parce qu'on est... On est un peu, quand on est DJ, comme des musiciens, on est un peu comédien, je veux dire. Moi, j'étais très timide à l'époque. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment très timide. Dès qu'on me parlait, j'étais rouge pivoine, quoi. Et bon, le judo a fait en sorte que je sois un peu plus sûr de moi, alors que je ne me suis jamais battu de ma vie. Mais je ne sais pas, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Et après, je me suis définitivement guéri de cette timidité en étant DJ, parce que les gens vous regardent. Vous êtes musicien, les gens vous regardent. Vous pouvez être derrière un poteau, il y aura toujours quelqu'un qui sera là et qui aura un œil sur vous, parce que c'est vous qui jouez, c'est vous qui chantez, c'est vous qui mettez la musique. Donc voilà. Alors je pense que quand je me suis lancé dans ce DJing là, mais quelque part je me suis, oui, c'est un art, je pense quand même, comme au sens très très large du terme. Moi, je suis complètement sur les fesses quand je vois quelqu'un qui sait peindre, parce que je me dis, mais c'est incroyable, quelqu'un qui sait sculpter, je me dis, waouh, que j'aimerais faire ça, quoi. Et puis quand les gens me regardent, ils me disent, mais moi j'aimerais savoir mixer, faire danser les gens, j'aimerais savoir faire de la magie, j'aimerais savoir faire de la ventriloquie, j'aimerais savoir faire ta sculpture à toi, c'est des sculptures de ballon. Donc oui, je suis conscient que les gens me font rêver, les artistes me font rêver, et bon, que j'en fasse rêver quelques-uns, je peux le comprendre aussi, pourquoi pas, dans l'autre sens. Donc voilà, pourquoi l'art, c'est que, je sais pas, c'est toujours, alors, se mettre en avant, pourtant j'ai pas un ego démesuré, je veux dire, je pense être assez humble, et à la fois, quand on est artiste, il faut toujours avoir une part d'ego un peu, peut-être un peu surdimensionnée, parce qu'on aime bien se faire voir, quelque part, donc voilà, mais pour, voilà, me lancer, pourquoi l'art, ben, je sais pas, je me suis lancé dans ce métier-là, je sais pas pourquoi. Forcément envie de faire plaisir et envie de faire quelque chose et de voir les gens et de créer quelque chose de mes mains, quelque part avec mes mix, je crée une histoire et puis je fais danser les gens. Donc l'envie de faire ça, de voir que ça marche, de voir que les gens sont contents et viennent vous remercier, voilà, c'est ça. Au début, je pensais pas être un artiste, pour moi j'étais DJ, point, quoi. Bon, maintenant oui, je me considère comme artiste, votre profession, je dis artiste, je peux dire aussi saltimbanque, mais je dis artiste parce que c'est au sens large du terme, je suis artiste, oui.
Alors selon vous, en quoi consiste justement le travail d'un artiste et quel rôle peut-il avoir dans la société au sens large ?
Ben, c'est de fédérer peut-être autour de son art, fédérer les gens, leur donner envie de faire peut-être la même chose. Moi, je suis ravi quand il y a des gens, je l'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps sur un spectacle, il y avait un jeune qui vendait des sculptures de ballon et qui me dit, je vous remercie parce que je fais ces sculptures-là, parce que je vous ai vu à la télé le faire, donc ça m'a donné envie de le faire. Et donc, on s'est mis dans un coin et je lui ai appris d'autres choses. Le partage est important, donc moi je veux dire, c'est... Si on peut, nous, arriver à partager notre passion et notre art et susciter chez les gens l'envie de faire la même chose, je veux dire, c'est génial. Au plus on sera d'artistes, au mieux la société se portera. Parce que, je veux dire, il y a des problèmes partout dans le monde. Et heureusement que les artistes sont là pour émerveiller ces gens, soit en regardant une peinture, en regardant une sculpture, en écoutant un musicien, chanteur autour d'un petit jus de fruits. Là, voilà, ben... c'est ces bons moments qu'on procure aux gens, quoi. Quel qu'il soit, un artiste procure des sensations, procure des réactions, quelles qu'elles soient. On peut être aussi un artiste un peu engagé en provoquant des choses. Waouh, on n'est pas forcément d'accord avec ça. Eh bien, ok, on en parle, quoi. Donc, c'est de provoquer ces débats, ces discussions et ces réactions épidermiques dans un sens ou dans l'autre qui fait que les artistes ont un vrai rôle à jouer dans la société. pense.
Pensez-vous que l'art doit être financé et quels seraient les rôles de ces financements ?
Ah ben, je me dis oui, parce qu'on n'est pas beaucoup d'artistes à vivre de notre art. Et ce serait bien pour ceux qui n'arrivent pas à en vivre. D'abord, alors si on parle sur le territoire, je me dis, mettez vite en place le statut d'intermittent de spectacle, quoi. Je vous dirais là, vous aurez beaucoup plus de spectacles et beaucoup de gens, beaucoup plus d'artistes qui se lanceront dans ces domaines-là. Parce qu'il y en a qui pourraient ne pas avoir envie de se lancer dans tel ou tel domaine parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas en vivre, parce que c'est un sacerdoce de répéter pendant des heures et des heures, quel que soit l'art que l'on pratique, de répéter pendant des heures. Bien sûr, notre récompense est de faire plaisir aux gens. Mais il faut souvent, moi j'ai cette chance de pouvoir en vivre, on n'est pas beaucoup beaucoup sur le territoire à vivre de notre art, mais tous ces artistes-là ont un deuxième boulot à côté, forcément, parce que, voilà, alors c'est hyper important de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens, mais si on avait quelque part quelqu'un qui peut un peu nous apporter, je sais pas, un peu de beurre dans les épinards, ou même ne serait-ce qu'un peu d'épinards, quoi, dans l'assiette, quoi, voilà. Donc, oui, sous forme de l'intermittence du spectacle, je pense qu'elle serait nécessaire pour l'art en Calédonie, ça c'est sûr. Et après, ben, de pouvoir accompagner les gens. Nous, on est des créateurs d'événements avec ma femme, on n'a pas de sponsor, on appelle un copain restaurateur pour dire, est-ce que dans la semaine où il y a nos artistes internationaux, est-ce que tu peux prendre à ta charge 2 repas et on te donne 2, 3, 4 places en VIP, voilà. Et on arrive à se débrouiller comme ça avec des connaissances, mais quand on s'adresse, bon sang, je fais un festival comique, un festival de magie, quand je m'adresse aux instances ici, que ce soit au tourisme, alors qu'on fait venir pour ce spectacle-là 5 artistes, j'ai vu en magie déplacer, parce que moi j'ai été performé au festival de Melbourne 2 ans d'affilée, que j'ai fait à un moment donné, une conférence sur la magie. C'était dans une école de magie d'un copain à Melbourne. Donc il voulait que je fasse une conférence sur la magie, ce que je savais faire, c'est-à-dire en DJ, en télé à l'époque, parce que j'étais encore à la télé. Donc il pensait que c'était important, que mes expériences de vie pouvaient peut-être aider certaines personnes qui étaient devant moi. Bon. Mais avant ça, pendant une demi-heure, je n'ai parlé que de la Calédonie avec des images. Et bien ça a eu pour but, à ma petite échelle, ça a eu pour but que quelques magiciens d'Australie viennent à regarder, donc prennent l'avion pour venir voir mon festival international de magie. Donc, ok, je ne déplace pas des milliers de touristes, mais le peu que j'ai déplacé et tous les gens que l'on fait venir, tous ces artistes-là internationaux qui ont des followers et des fans qui les suivent sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et qui, quand ils relaient des images là, mais c'est une publicité énorme. Et je ne comprends pas que nous, à notre niveau, là, je parle un peu égoïstement de ce que l'on produit avec ma femme, qu'on ne nous aide pas pour ne serait-ce que payer un petit peu quelques frais de ces artistes-là, là, un petit séjour à l'île des Pins, et quand on demande, on nous dit non systématiquement. Je trouve que ouais, ça fait mal au cœur, parce qu'on fait. À notre niveau, on fait ce qu'on peut faire pour faire connaître la Calédonie à travers le monde par ces artistes qui sont souvent faisant partie des meilleurs au monde. Et quand on ne nous aide pas, voilà, je trouve ça un peu fort de café, quoi. Bon, et on ne demande pas des milliers des cents, mais un tout petit billet qui nous permettrait de payer un seul billet d'avion, par exemple, alors qu'on en dépasse 5. Là, on fait venir 6 artistes pour le burlesque. Ils nous ont fait un prix pour leur cachet, mais c'est un cachet, même avec le prix, qui est un cachet qui est énorme, mais ça fait 4 ans qu'on est dessus, 4 ans qu'on veut les faire venir, et bien on n'a pas d'aide. Donc du coup, on ne sait même pas si on va rentrer dans notre argent, mais on le fait par passion d'apporter une pierre à l'artistique calédonien. Donc voilà, de proposer des choses que les gens ne verront jamais sur le territoire. Si nous, on ne fait pas des festivals de burlesque et des spectacles de burlesque, personne n'ira en voir. Ils seront peu à prendre l'avion en Australie ou aux États-Unis pour aller voir des spectacles de burlesque. Quand je fais venir les meilleurs magiciens, certains ont été primés au championnat du monde, Bon voilà, les gens ils sont là, ils apprécient le truc, mais ils apprécient parce que tous ces festivals, souvent on gagne rien dessus. On se fait plaisir, on fait plaisir aux gens, mais on gagne rien. Et je me dis que voilà, ça fait partie des petites choses qui pourraient aussi nous faire vivre. Bon voilà, et si on pourrait, si on pouvait nous aider à vivre de ces choses-là, voilà. Alors ce qui est vrai pour nous dans le domaine de la création d'événements, de la production d'événements, eh ben serait vrai pour n'importe quel artiste dans son domaine, et quel que soit l'événement qu'il crée. Nous, on crée des événements et on déplace des milliers de personnes, mais celui qui crée un événement avec quelques dizaines de personnes qui déplacent, mais il les a déplacés, ces 10 personnes. Et puis, c'est bien aussi de déplacer les enfants pour leur donner le goût au théâtre, le goût à se déplacer dans une salle de spectacle ou dans un bar pour venir écouter telle ou telle personne. Donc, je veux dire, si on avait un petit peu d'aide pour acheter un petit peu de matériel, pour acheter, j'en sais rien, se former un petit peu plus dans son domaine, ou pour, quand on fait venir des artistes, nous aider un tout petit peu à alléger les frais, je veux dire, il faudrait le faire. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour le gouvernement, pour les provinces, c'est sûr, mais c'est dur aussi pour nous, quoi. Et là, on est en train de réfléchir à ne plus faire le festival l'année prochaine, le festival de burlesque, parce que voilà, on a perdu encore 2 sponsors cette année parce que c'était dur pour eux. Et bien, à force d'être dur pour eux, c'est dur pour nous. Et bientôt, on va arrêter ça, quoi. Donc, je trouve dommage. Mais voilà. Donc, s'il vous plaît, mettez un peu la main à la poche, avec des petites enveloppes. Mais ça ne fait rien. Ça nous fera du bien, quand même. Nous, artistes, quels qu'ils soient, ils seront contents. Et nous serons contents de recevoir ces petites enveloppes-là, quoi. Voilà.
On espère vraiment, nous aussi, que l'appel va être entendu, parce que c'est quand même effectivement quelque chose, l'art dans son ensemble et toutes ces initiatives, des choses qu'il faut vraiment aider et propulser.
Bien sûr, bien sûr. Et puis ça donnera envie à d'autres d'embrasser ceux ou ces métiers qu'ils ont vus, qu'ils ont découverts grâce aux artistes. Donc je veux dire, c'est pour les générations futures aussi, c'est bien.
Que pensez-vous de l'initiative Artiste NC?
J'adore, bravo. D'abord parce que j'avais eu l'idée il y a quelques années. Mais je dis bravo à vous parce que vous l'avez fait, moi je ne l'ai pas fait. Moi j'avais juste l'idée de faire quelque chose qui était moins complet que ce que vous proposez. Et c'était juste une sorte d'agenda des artistes. Alors vous, c'est vraiment sur... Vous partez sur tous les arts et c'est tout en votre honneur. Moi c'était juste... Voilà, je trouvais fou que les gens m'appellent pour avoir le numéro de mon copain magicien ou de mon copain DJ, et moi je suis le premier, parce que je trouve qu'on est dans n'importe quel domaine que ce soit, il faudrait que les artistes, on soit main dans la main, et non pas qu'on soit des concurrents, mais qu'on soit d'abord des copains avec qui on peut partager. Et puis bon, la concurrence elle est là, mais elle est toujours bénéfique, la concurrence, on va vous dire, c'est le soleil brille pour tout le monde, ça c'est sûr. Et donc du coup, moi souvent, quand on voulait me prendre, ou qu'on veut me prendre encore maintenant, pour un mariage, un anniversaire, ou que sais-je, ou un spectacle, quand je ne peux pas, je donne toujours les numéros, donc je les ai toujours en tête, les numéros de tous mes potes qui font le même boulot que moi, différemment, certes, mais le même boulot avec la même passion. Donc je le fais. Et je me dis, c'est bien parce que moi je le fais, je donne tous les numéros des copains, mais est-ce que tout le monde fait ça à chaque fois dans son domaine, pour donner les numéros de tous les autres musiciens, chanteurs, sculpteurs, j'en suis pas sûr. Donc, à l'époque, je m'étais dit, tiens, un agenda qui réunirait tous les magiciens, tous les disques jockeys, dans mon domaine en tout cas, et puis après, tous les chanteurs, tous les musiciens qui pourraient se produire sur scène ou en studio. Donc, moi, j'avais cette idée-là. Je ne l'ai pas mise en œuvre et en route. Et donc, bravo à vous. Quand vous m'avez appelé, quand Kevin m'a appelé me disant, voilà, on prépare ça, moi, j'ai dit, alléluia, quoi. Enfin, quelqu'un, et donc quelques-uns, parce que vous êtes deux, Julien et Kevin, qui se lancent là-dedans avec quelque chose aussi énorme dans tous les domaines, moi, je dis bravo, parce que enfin, les gens, les monsieur tout le monde qui chercheront... un spectacle pour leur enfant, un groupe pour chez eux, pour leur animer leur soirée, ou un DJ, ou un sculpteur, parce qu'ils ont besoin. Là, en ce moment, je cherche, moi, une grande flèche fêtière. Voilà, il y aurait ça. Pam, je tape sculpteur dans les mots-clés ou dans la recherche. Bam, je vois tous les sculpteurs. Après, il n'y a plus qu'à les appeler, à regarder s'ils ont un site internet, de voir un peu ce qu'ils font, ou sur leur page, puisqu'ils auront à chaque fois une page, ben, de voir un peu ce qu'ils font. Et c'est génial, parce que là, vous allez faire gagner du temps à beaucoup de Calédoniens, ça c'est sûr. Et bravo, bravo. Moi, j'adore. Voilà.
Merci beaucoup. Oui. C'est effectivement un projet qui, depuis pas mal de temps, depuis 4 ans déjà, trottait dans la tête. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir l'apporter aux Calédoniens, aux artistes et puis à tous les autres, aux spectateurs. Et on va tout faire pour le développer de plus en plus.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est tout en votre honneur. Bravo.
Alors, une question bonus, là, du coup, c'est une question que je, depuis des années, j'ai en tête. Mm-hmm. Je me suis dit, le jour où j'ai la chance d'avoir Guy Raguin, je vais lui poser cette question-là pour enfin être sûr de la réponse.
D'accord.
Je ne me souviens plus dans quel magazine j'ai lu cette rumeur-là, mais ça m'avait tellement frappé que je saisis l'occasion aujourd'hui.
Oui.
J'ai toujours tendance à dire que vous êtes une icône de la jeunesse calédonienne, comme j'ai dit au début, de ma génération, en tout cas, et même après, au même titre que le Club Dorothée en France.
Oui.
Et justement, est-il vrai que vous avez failli faire partie de leur équipe avant de venir en Calédonie ?
Ah oui, complètement, ouais. C'était en 91.
Ok.
Oui, parce que je connaissais bien toute l'équipe, parce que j'y allais. Et j'avais toujours... Alors, j'étais habillé par Lynn Création, qui m'habillait pour les émissions. Donc, des habits très colorés, très océaniens, très pacifiques, dans les couleurs, dans les motifs. Et donc, quand j'allais en métropole, j'étais habillé comme ça aussi. Donc, effectivement... On me prenait pour un Uluberlu, mais bon, c'était mon style de vie. J'ai toujours des couleurs, bon, et j'aime bien ça. Et je dis ça précisément parce que j'allais voir le Club Dorothée parce que je trouvais fou, on faisait le même métier. Donc, on amusait des enfants à la télé. Et puis, une fois, j'y vais avec la casquette de reporter... d'un magazine que j'avais lancé pour les enfants, qui s'appelait Léo Magazine, qui a vu le jour, j'ai eu fait que 5 numéros sur une année, puis après j'ai été attaqué par Lego. Voilà, ils avaient un Lego Magazine, ils voulaient m'attaquer parce que j'avais Léo Magazine. Alors j'ai dit, je faisais pas ça pour l'argent, parce que c'était une association, et même il fallait que je rajoute moi l'argent quand je trouvais pas de sponsor pour arriver à boucler le budget de l'impression en tout cas de ce magazine là donc j'y mettais même des sous. Alors, j'ai dit bon, je vais pas me prendre un procès pour quelque chose qui non seulement me rapporte rien, sinon le plaisir de le faire et de faire plaisir aux enfants, mais qui me coûte de l'argent. Bon, voilà, donc j'avais arrêté, mais j'étais allé une fois et j'avais fait un double poster, enfin une double page poster avec où j'étais moi avec Léo au milieu du Club Dorothée, et donc j'étais allé comme ça avec ma marionnette en disant voilà, je viens t'interviewer, Dorothée, puis vous interviewer tous pour ça, ça, ça et ça, pour un magazine que j'ai pour les enfants. Et à partir de ce moment-là, on a sympathisé. Et chaque année, je retournais en métropole, et chaque année, j'allais les voir. Et donc, à chaque année, ils me reconnaissaient, surtout par mon look, entre guillemets, vestimentaire. Et voilà. Et puis un jour, je me dis, je ne sais pas, pourquoi pas. Et donc, j'avais une cassette VHS de l'époque, avec des extraits de mes émissions. Et puis, j'y suis allé, puis je suis allé au culot, comme je disais, souvent ça m'a réussi. Je suis allé au culot en disant, il y a Patrick Simpson-Jones qui faisait partie, qui était le speakerin avant ça, et qui faisait partie de l'équipe Dorothée, et qui venait de partir. Et moi, je suis allé avec ma cassette, et je dis, voilà, bonjour, je viens remplacer Patrick Simpson-Jones. Voilà. Donc là, ils sont mis à rigoler. Mais pas tant que ça, quand même, parce qu'ils ont pris ma cassette. Ils sont partis, et quand cette dame-là est revenue, elle me dit, bon, je viens de voir Monsieur Azoulay, et donc Azoulay, c'était tout simplement le Big Boss, puisque AB Productions, c'était Azoulay et Bardin, et il me dit, je viens de voir Monsieur Azoulay, il est d'accord. J'ai dit, waouh, attendez, là, dites-moi pas que c'est pas vrai. J'ai dit, d'accord, pourquoi ? Pour que je rentre dans l'équipe ? Alors il me dit, il est d'accord pour que vous fassiez un direct avec l'équipe, parce qu'effectivement, votre côté ventriloque, jongleur, sculpteur de ballon, chanteur, tout ça, ça l'intéresse beaucoup, et parce qu'il n'a pas ça au sein de l'équipe, et il me dit, ça peut être vraiment intéressant de vous avoir dans l'équipe du Club Dorothée. Donc il me dit, vous allez faire un direct, et au terme du direct, on vous dira si on vous prend dans l'équipe ou non. J'ai dit, oulala, d'accord. Donc le rendez-vous est pris, pour un certain mercredi en direct et un mardi en répétition. Et j'y vais, je vais à Paris, j'appelle ma compagne en disant, voilà, sache que je suis à tel hôtel, tel numéro. Et elle me dit, ben, t'es monté pour rien, parce que la guerre du Golfe venait de se déclencher. Et il me dit, ils vont déprogrammer ce qu'ils avaient programmé pour faire une émission avec Dorothée et quelques militaires pour expliquer la guerre du Golfe aux enfants. Et effectivement, je vois bien, le mercredi, je regarde, et le mercredi, c'était cette émission-là. Bon. Donc, je suis déprogrammé pour 15 jours après. 15 jours après, je remonte. Non, une semaine après, pardon, je remonte. Et je rappelle toujours le même scénario. Entre-temps, j'avais la production. Oui, attention, pour la matinée que vous avez passée avec le club Dorothée, attention, vous n'êtes qu'un faire-valoir de Dorothée, d'accord ? Pas que vous mettiez en avant. Alors, je dis oui, donc j'ai bien compris le message. Mais quelque part, je voulais aussi un peu me mettre en avant. Bon, je voulais rester à ma place, mais me faire remarquer si je voulais avoir une chance de rentrer. Je ne pouvais pas être trop en retrait, quoi. Donc voilà, j'avais bien étudié mon truc, j'avais étudié mes tours de magie, mes trucs de ventriloquie, un peu de jonglage, un peu pour faire tout ça, quoi. Et du coup, je remonte la semaine d'après et on me dit la même chose. On me dit, il y a eu un tel audimat le mercredi d'avant que ce mercredi, ils décident de refaire la même émission. Une émission encore basée là-dessus. Et ce n'était pas des cracks, enfin, je veux dire, ce n'était pas du pipeau. Quand j'ai regardé, c'était encore ça. Et donc là, ils me disent, bon, écoutez, on vous appellera. Parce qu'on a des programmés à l'époque, c'était Carlos et François Valéry aussi, au même titre que moi. Et donc, on me dit, on va les prendre et donc on vous prendra, on vous appellera. Sur ce, je leur dis, écoutez, là, je repars en Calédonie pour lancer mon émission télé. C'était la rentrée audiovisuelle au mois de mars. Je dis, mais je pèse mes mots. Vous me dites n'importe quelle date et je fais, moi, les 22 000 km pour faire la matinée d'émission et je reviens, quoi. Et ils ne m'ont pas rappelé. Pensant que peut-être, bon là j'ai vu que peut-être à ce moment-là, j'aurais dû, alors c'était difficile comme décision, mais peut-être rester sur place et attendre ça, quoi. Et si ça devait, je devais attendre 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, j'aurais eu peut-être la chance de participer à cette émission en direct et donc d'avoir une chance de rentrer dans le club Dorothée. Et donc quand je suis revenu ici, ça n'a pas pu se faire. Et puis voilà, et puis un an après, j'y suis retourné, et là c'était au mois de juin. J'y retourne avec une cassette, la personne va voir encore Azoulay, et le Azoulay qui dit, il vous trouve toujours très intéressant, mais là c'est la fin de la saison, juin, et vous tombez mal. Et je me suis toujours dit que j'aurais dû à un moment donné mettre entre parenthèses la télé calédonienne pour aller là-bas et attendre de faire ce bout d'essai, voilà, donc. Bon, j'ose croire que j'aurais pu rentrer, voilà, ça n'a pas pu se faire encore à cause de la guerre du Golfe. Et puis, une autre chose qui n'a pas pu se faire, c'est j'ai failli, et là, jusqu'au bout du bout, ça devait être moi, et j'ai failli rentrer à la 5, qui était une chaîne incroyable en métropole, où il y avait les plus grandes stars, puisque c'est Berlusconi qui montait la 5. Il avait débauché toutes les stars, Sabatier, des tas de grands noms de la télé. Et moi, quand j'y suis allé au culot, là encore, souvent on me disait, on la donnera à qui de droit, vous inquiétez pas, merci et bonne journée. Et là, la seule fois où j'ai insisté, en disant, moi j'en ai ras-le-bol qu'on me dise ça, et j'avais pas de réponse, jamais. Moi, j'aurais voulu à un moment donné qu'on me donne une réponse, même négative, mais qu'on me la donne. Et ce jour-là, à la 5, la dame à l'accueil me dit, ben ouais, on la donnera au responsable du secteur jeunesse. Et là, je dis, non, je dis, écoutez, je quitterai pas les bureaux, mais je veux voir cette personne qui me dise que non, mon émission est pas bonne ou que je considère qu'ils adhèrent pas sur mon personnage. Mais je veux l'entendre ça et non pas mettre, parce que je dis j'ai entendu ça, j'ai fait toutes les chaînes là, TF1, la 2, la 3, je les ai toutes faites là et je dis voilà. Et là, elle me dit bon, je vais voir. De là, on me dit bon, il y a quelqu'un qui va vous recevoir. Ah, je dis ok. Et là, je rentre. Je vois un assistant devant moi, j'ai dit, ben voilà, je viens voir Monsieur Couture, qui est le responsable jeunesse. Il me dit, Monsieur Couture est à New York, est-ce que je peux vous aider, me dit l'assistant. Ben, je lui dis, j'aimerais que vous regardiez les extraits de mes émissions et que vous me disiez ce que vous en pensez et si vous pensez que j'ai une chance de rentrer sur votre chaîne, qui, je te dis, à l'époque, était vraiment une très grosse chaîne. Et il me dit, ben on va s'asseoir. Et le gars, il était là, et jeter un coup d'œil furtif sur mon émission, et tout le reste du temps, il était au téléphone. Et ça, je ne pouvais pas comprendre ce manque de considération pour le fait que moi, j'étais là et qu'il ne regarde pas. Moi, tu peux me dire, tu peux me critiquer tant que tu veux, mais à condition que tu la regardes, l'émission. Et après, on en discute. Je t'explique pourquoi je n'ai pas fait ci ou ça, ou ça peut me donner des super idées pour continuer à me construire et à me faire progresser. Mais là, quand le gars il raccroche et qu'il me dit « Vous savez, monsieur Raguin, il y a des spectateurs, des téléspectateurs actifs et passifs, et moi je suis complètement passif devant votre émission. » Et là, je lui dis « Ah bon ?» Et je lui dis « J'accepte pas ça. » « Comment ?» Je lui dis « J'accepte pas. » « Dites-moi juste avec qui j'anime, parce que je ne suis pas tout seul animé. » je vais vous le dire. Ben, je lui dis « Prenez votre temps, parce que je suis sûr que vous n'êtes pas capable de me le dire. » Ben, vous êtes avec une fille, enfin, vous animez avec une fille. Je lui dis, j'anime en ventriloquie avec un clown qui mesure 50 cm et avec un oiseau en plastique, quoi. Et j'ai deux marionnettes de ventriloquie. C'est ça, votre fille? Alors, je lui dis, vous savez, moi, mes yeux, vous êtes un nul, quoi. J'aurais accepté tout, sauf là, vous n'êtes pas capable. Donnez-moi votre cassette. J'étais un peu remonté. Je prends la cassette, au moment où je sors, boum, je tombe nez à nez et même un peu physiquement en contact avec un gars. Il me dit, ça va? Ben, je dis, pas vraiment. Je lui dis, un rigolo là, qui me prend pour un idiot là. Il me dit, pourquoi? Je dis, j'étais venu voir monsieur Couture. Le mec, il est à New York, je vois son assistant, il comprend rien, quoi. Mais il me dit, monsieur Couture, c'est moi. Non. Il dit, vous n'êtes pas à New York. Il me dit, que j'irai faire à New York. Je sais rien, c'est votre pingouin là, votre marionnette qui m'a dit ça. Et là, il me dit, vous venez pourquoi? Je dis, pour que vous me critiquiez mon émission et que vous voyez si elle peut rentrer dans votre grille. Et il me dit, essayez-vous, on va regarder. L'assistant, il s'assoit dans un coin. Et là, un peu par obligation, parce que son chef regardait, il a regardé. Et le chef, il était là, enfin le responsable du secteur jeunesse de l'époque. Et là, il était comme un gosse. À l'époque, il y avait Léo Tristouguet. Cette fameuse, un fameux jeu que j'avais inventé. Et là, il était là, il jouait triste, gay, oh j'ai perdu, gay, oh j'ai perdu. Qui est-ce qui crée les jeux? Je dis, c'est moi. Et après, il me dit, alors comme ça, on va se tutoyer. Je dis, si tu veux, alors t'es ventriloque, là, tout de suite, boum, j'ouvre la valise, je lui sors ma marionnette. Et là, il était comme un gosse, quoi. Et il me dit, c'est incroyable. Et il me dit, moi, je te dis, alors, on commence à discuter d'argent. Et combien tu touches, et ci et ça. Et là, il me dit, vraiment, tu m'intéresses pour la 5. Vraiment, tu m'intéresses. Alors, je lui dis, waouh. J'étais comme un dingue. Donc, c'était à la même période que le Club Dorothée. C'était juste avant le Club Dorothée. Et là, je dis, waouh, c'est incroyable, quoi. Je sors du bureau, je téléphone à toute ma famille en disant, je vais être sur la 5. Deux jours après, on m'appelle en disant, tu vas participer à un casting. Parce que, voilà, je te cache pas. Et donc là, c'est l'assistant qui était devenu très sympa avec moi parce que du coup, j'étais... Et là, ce qui était rigolo, c'est que le gars, une fois qu'il a regardé mon émission, Xavier Couture, qui après est devenu un très grand de Canal+, et quand il a regardé, il me dit, tu vois Guy, il y a des téléspectateurs actifs et passifs. Je dis, oui, j'ai déjà entendu cette phrase-là. Je suis complètement actif. N'est-ce pas Bernard qu'on est complètement actif devant l'émission de Guy? Et le Bernard qui baisse la tête, dit oui, oui. Et là, je dis, pas possible, quoi, qu'ils disent oui. Et donc, pendant que le Xavier continue à me parler, moi, je n'avais Dieu que sur l'assistant en disant, il faut qu'il croise mon regard pour que je le mitraille du regard, quoi. Et quand il a levé le regard, moi, j'ai croisé son regard en disant, mais t'es vraiment un trou du cul, quoi. Voilà. Et t'as pas de figure de dire comme ton patron, quoi. Mais là, et voilà. Tout ça, et tous ces mots-là, c'était dans mon regard, il a compris, il a rebaissé les yeux tout de suite. Et puis voilà, et après, bon, cet assistant a été très sympa avec moi, et bien sûr, il m'adorait en tant que magicien, qu'animateur, que créateur, tu vois. Et là, donc j'ai fait ce casting. De ce casting, je vois que moi, ce que je fais, ça marche bien, quoi, mais au moins, j'ai eu la sensation d'avoir fait mon maximum. Le Xavier Couture qui dit, écoute, les producteurs d'émissions pour enfants, et il me dit, ils sont fous de toi, quoi, tu vois. Donc j'attends. Deux jours après, on me dit, on hésite entre 10 personnes et tu es qualifié donc à un casting final. Je fais mon casting final, là, pareil, je casse la baraque. En tout cas, moi, je me suis régalé et je dis, je ne pouvais pas faire mieux. Après, c'est eux qui pensent, voilà. Et de là, on n'était pas 10, on était à nouveau 50, quoi. Je dis, mais pourquoi tu m'avais dit 10? Oui, mais t'inquiète pas, les autres, c'est parce que c'est des copains, des cousins, des copains, et bon. Et là, il me dit, non, on est, il y a 10 personnes sur qui on flash, mais franchement, tu fais partie du trio de tête. Et là, je fais mon truc, il me dit, vraiment bravo, bon truc. Les producteurs viennent en disant bravo pour ça, enfin, vraiment, on adore. Et moi, je m'y voyais. Et là, je rentre à la maison, pendant 2 jours, je ne dors plus, je ne mange plus. Et au téléphone, il y a ce fameux Bernard qui me dit, toute la nuit, ils ont hésité entre un gars et toi, et ils ont pris l'autre gars. Et là, j'ai dit, waouh. Alors, je me suis mis à pleurer au téléphone, parce que je dis, là, c'était mon avenir audiovisuel métropolitain, quoi. Voilà. Et la chaîne a duré avec... Alors, cette émission, elle a vu le jour 3 émissions, et après, ça s'est arrêté. Parce qu'entre-temps, le gars qui était en finale, entre guillemets, ils avaient hésité, il avait pris. C'est même pas lui qui s'est retrouvé à l'antenne. J'ai rien compris. Et le gars qui s'est retrouvé à l'antenne, il n'était pas bon du tout, quoi. Donc ça, je ne sais pas pourquoi ils m'ont pas rappelé, j'en sais rien. Donc ça a vu le jour trois épisodes et puis c'est parti. Donc voilà, à l'époque, donc voilà, j'ai failli rentrer dans la 5, même s'il a arrêté un an après. Ça aurait su été une belle aventure. Et j'ai failli rentrer dans le club Dorothée aussi si j'avais fait ce direct là. Mais bon, ça reste de bons souvenirs.
Ah bah, oui, effectivement. Bah là, ça, super. J'ai eu l'occasion d'avoir la vie et les anecdotes du principal intéressé. Ouais, c'est super. Encore plein d'enseignements. Et c'était donc la dernière question cette interview. Ouais. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir répondu présent.
Et bah, pardon pour la longueur, mais bon, je suis.
Au contraire.
Je suis intarissable.
Ça nous a permis de retrouver Guiraguin.
Oui.
Et oui.
L'actuel Guiraguin.
Bah, faut que je me soigne, docteur. Il faut que je me soigne.
Au contraire, parce que c'est justement très plaisant de pouvoir prendre le temps quand il y a autant de choses à raconter, pleines d'enseignements. Et Guiraguin, bah, là, au travers de cette interview, je peux le confirmer maintenant, c'est des valeurs humaines, c'est. Un modèle d'esprit positif.
Merci.
Également.
Merci, mais c'est important.
Dont on devrait pouvoir tous s'inspirer. Il y en a besoin, comme on disait au quotidien. Oui. Il y a tellement d'horreurs qu'on voit partout dans le monde qu'on a besoin de s'inspirer de personnes qui avancent et qui sont persistantes,
persévérantes. Oui, bien sûr. Et dans bien le sûr. Travail, non, mais c'est important. Voilà. Et puis bon, la vie est belle. Bon, elle mérite d'être vécue. Donc, quand il arrive des coups durs, ben, il faut juste penser au lendemain, s'accrocher pendant ces moments-là, quelle que soit la vie ou les artistes donc, dans ce qu'ils font. Je veux dire, il y aura toujours des lendemains meilleurs et de profiter et surtout d'être passionné. Je veux dire, voilà, passionné dans ce que l'on fait pour passionner les autres et leur donner envie de nous voir, de nous entendre. Enfin, voilà, ben, les artistes, c'est un beau métier. Voilà, c'est un beau métier. Il faut... Faut qu'il perdure et puis bravo pour votre initiative et ça va forcément donner l'occasion à des artistes de pouvoir avoir une vitrine, une fenêtre sur ce qu'ils font et ça leur permettra, j'en suis sûr, d'augmenter leur cachet, leur contrat en tout cas et de se faire voir par le plus grand nombre. Donc encore bravo et vive artiste.nc. Longue vie à vous en tout cas.
Merci beaucoup Guiraguin.
Merci Kevin, merci Julien.
Merci beaucoup Kevin. Et merci beaucoup à tous les auditeurs. On espère que vous avez bien écouté jusqu'au bout parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Réécoutez-la même si possible.
Oui. C'est bien pour s'endormir aussi. On peut écouter ça. Ma voix peut les bercer. Peut-être ma voix peut les bercer.
Il paraît que la nuit porte conseil le lendemain.
C'est ça.
Peut se réveiller avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'interview sera disponible sur notre site artiste.nc, artiste au pluriel, hein, et sur notre page Facebook artiste.nc. Et très certainement aussi sur une chaîne YouTube.
Merci beaucoup. Merci à tous.
Merci beaucoup.